comme il a un jet de goût. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je crois, c'est pas de l'humour, hein, c'est un problème grave. Si on a changé l'ordre des vertus, et que le point de chute, c'est la mise à la digne, alors apparaît une attitude de l'identité hébraïque qui est terrifiante. Et d'ailleurs, Chavet, ça veut dire terrifié. Et bien attention à ça. Donc, je referme la parenthèse. Ça vous a plu, ça se douche, là? Et est-ce qu'il y a des questions? L'ordre des vertus, okay. Pardon? Parlez plus fort.
Je voulais vous poser cette question tout à l'heure, quand vous parliez de la durée des mises absolues, spécialement de Midatadim, c'est vraiment, ça peut penser immédiatement à l'orthodoxie, la plus
grande. Lorsqu'elle a échoué, bon, c'est une manière de parler, je vais faire un aveu, je suis un juif orthodoxe.
Je vais faire un aveu,
pour que ce soit clair, il ne s'agit pas d'orthodoxie, il s'agit de légalisme. Enfin, je suis, on n'a pas le droit de dire, je suis, j'essaye d'être. Mais il s'agit du légalisme, vous voyez. Je précise ce que vous avez dit, lorsque la Minatad Din est seule, détachée de la Minatad Chesed, alors c'est le légalisme. Et le légalisme est dévastateur. On peut condamner à mort n'importe quel juste en lisant le code comme ça. Tout fait. Et alors nous disons ça dans la prière du matin. Si tu nous juges en lisant le code avec la Minatad Din, on est déjà perdu. Est-ce que je pourrais avoir l'aumône d'un verre d'eau, ma charité chrétienne? Vous avez bien compris ce point-là? Ça, nous commençons par dire comme ça. Si on avait la prétention de dire juge-nous, et c'est la Minatad Din qui nous juge, on sait déjà qu'on est perdu. Un point. Alors, se méfier, ça. Est-ce que c'est clair? Non, je dis ça aussi pour la conscience chrétienne a souvent cru que les juifs avaient cet orgueil, cette prétention de prétendre être jugés par la Minatad Din et sortir neuf du jugement. C'est faux. Les juifs ont toujours eu la terreur de la Minatad Din lorsqu'elle est seule. Est-ce que c'est clair? C'est paradisra. Mais c'est une introduction à la culture de l'israélisme, on va y arriver, j'espère, sinon demain, on a encore le temps, mais qui me semble indispensable. C'est deux manières d'être sadique radicalement différentes, c'est dans deux univers différents, Abraham et Isaac. C'est ce mystère, entre guillemets, un est le père et l'autre est le fils. Et alors, je viens de penser à ça. Ça nous servira d'argument dans nos controverses théologiques. Dans le véritable ordre des vertus d'après la Bible, le père c'est la miséricorde et le fils c'est la terreur de la justice. Vous voyez l'humour de la chose. Est-ce que c'est clair?
Non, c'était à propos des Romains. Je crois que les Romains étaient conscients de cette faillite de la justice seule. Ça ne se place pas sur le plan de la moralité, comme vous l'avez placé, mais le proverbe « sumum ius, summa injuria » prouve bien qu'ils en étaient conscients. Et avec ceci de particulier que le mot « ius »,« injuria » vient de « ius », ius » est un mot neutre, je crois, pas masculin, « injuria » est féminin. Injuria féminin, et ça fait
attends,
référence à la... Jus, c'est un mot neutre, et impersonnel. Injuria en dérive, mais c'est un mot féminin et qui fait référence à la personne. Et c'est dans ce sens qu'il y a derrière un peu de l'idée du Chesed.
Certainement, je suis persuadé de cela. Nous avons eu cette analyse dans un autre point de ce sujet général. Il y a certainement eu, à l'échelle individuelle, des Romains qui ont vécu cette angoisse de leur conception romaine, disons, du droit. Mais je crois, et c'est resté dans la conscience chrétienne, en même temps, avec une conscience très aiguë de l'impuissance à ce que ce soit autrement. On est impuissant à ce que ce soit autrement. Et c'est donc pas par la loi qu'on sera sauvé. C'est bien clair. Je retrouve ça dans la conscience chrétienne. Le chrétien est resté romain en ce sens que ça lui est inconcevable, invraisemblable ce que les juifs disent, qu'il y a un visage de la loi qui est salvateur. Pour lui, il n'y a aucune loi salvatrice, parce qu'il n'y a que la conception légale de la loi. Quand j'entends surtout les protestants, surtout les calvinistes, ils sont beaucoup plus naïfs que les luthériens, naïfs dans le sens nouveau. Ils n'arrivent pas à concevoir ce que nous leur disons pendant la Torah. Un jour, je me dis ça souvent d'anecdote, j'ai eu à dire ceci. Est-ce que vous avez vu un peuple qui aime le code de la route, et bien voilà, nous aimons le code de la route. Notre code de la route, c'est la Torah. Vous avez un peuple aimé sa voix comme les Juifs aiment la Torah. C'est inconcevable pour un goy. Imaginez, oh peut-être il y a eu des constituants qui devaient danser avec la constitution française. Avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça devait arriver peut-être. Il devait être des Juifs encore. Mais c'est un peu ça le problème. À Simchat Torah, les femmes embrassent la Simchat Torah. Et c'est sérieux. Vous savez, c'est comme ferveur dans ce baiser. Bon, allez faire comprendre ça à un non-juif. De quoi il s'agit? De la Constitution, de la loi. Est-ce que c'est clair? Ça va dans ce sens. Et alors, je crois qu'il y a un danger dans l'ordre des vertus. Si le point de chute, c'est la mise à jardin, c'est que la Shoah n'est pas achevée. Alors là, il faut faire appel à Maïmonide. Ça veut dire qu'on est encore en convalescence de Shoah. Mais après cette Midas Adin retrouvée, il faut arriver à la Midas Arachan. C'est bien clair? J'ai eu l'occasion souvent de citer un Midrash qui se trouve dans la paracha de Yitro. Je ne sais pas si je l'ai cité à ce séminaire. Et c'est Moïse qui monte au ciel chercher la Torah. Les anges s'opposent. Et là c'est clair, les anges c'est la volonté de Dieu au niveau de l'absolu. Alors, aucun rapport entre la Torah au niveau absolu, tel que les anges la connaissent, et ce que l'homme vient chercher sur terre. Le Midrash, c'est ce qu'il fait fondamentalement. Est-ce que vous avez besoin de ces commandements, vous les purs? Et alors, Moïse ne sait plus quoi faire. Et Dieu lui donne un conseil. Il dit à Moïse, prends le visage d'Abraham. Les anges auront honte, parce qu'ils ont reçu l'hospitalité d'Abraham. Alors, Moïse a reçu le visage d'Abraham, et les anges lui ont laissé prendre la Torah. Il a un rapt. Je vais en français. Alita la marom, shavita shevi. Tu montais au ciel et tu as pris une prise, littéralement. Shavita shevi, c'est un prisonnier captif. La Torah, elle a dû être volée aux anges. Et elle est captive chez les hommes. Par quel biais? Eh bien, par le fait que Moïse a pris le visage d'Abraham, alors les anges étaient tellement interloqués qu'ils ont oublié de fermer leur bonne écoute. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, c'est ça finalement, la réussite du Hébreu. C'est d'arriver à ce que Moïse ait le visage d'Abraham. Moïse, le visage d'Abraham pour Abraham, c'est le visage d'Abraham pour Abraham. Mais quand Moïse, avec son visage, a le visage d'Abraham, alors la Torah a réussi. Je pense que c'est clair. Alors vous garderez ça à l'indice Hélène. Il y a un très joli verset, alors pourquoi je dis c'est plus que ça, dans le cantique des cantiques, Héviani Amelech Hadara. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. Vous savez, les pérégrinations dans le Talmud Torah. Et chaque fois que dans le Midrash, on veut dire que quelqu'un est venu nous dévoiler des secrets, ce qu'on cherche. Alors, c'est dit comme ça. Quelqu'un est venu pour me faire rentrer dans les chambres, et Hadarim, c'est ce soda Heber. Bien. Akem.
Je voudrais revenir hier, pour le texte d'hier, pourquoi il a dit que Haran est mort à Alpene Terach.
Haran, c'est le nom de la ville.
Ah bon, alors, Haran est mort à Alpene Terach et...
Oui, je vais expliquer la question puisque ça porte sur la fin du cours, à un moment du cours d'hier. Nous avons vu que Terach avait trois fils. Haran, le père de Lot. Haran, Abraham, Haran et Nahor. Abraham sort de l'occasion. Et ça va être long, le processus, jusqu'à ce qu'il devienne Abraham, et qu'il puisse enfanter Isaac, lequel enfantera Jacob, lequel Jacob est Israël, Abraham est sorti de l'occasion. Voilà, au fond, je résumais un peu le processus. Haran, lui, c'est cet Abraham qui ne peut pas sortir de l'occasion, mais il ne peut pas rester à l'occasion, alors il est mort devant son père, dit le verset. Celui qui ne peut ni sortir, ni ne pas sortir, alors il meurt. C'est l'impuissance de déconnecté d'occasion. Mais il a laissé un rejeton qui est une promesse pour un avenir lointain, c'est Lot. Lot, fils de Haran, peut sortir. Mais il sort araméen en diable, si j'ose dire. Il devient Lot. Alors qu'il était de la même identité à l'origine. Il est le neveu d'Abraham. Abraham dira, on se sépare parce qu'on se ressemble comme des frères. Quand on voit Abraham, on croit voir Lot. Et quand on voit Lot, on croit voir Abraham. Quand on voit l'araméen, on croit voir l'hébreu, quand on voit l'hébreu, on croit voir l'araméen. Alors il y a une différence. Pas visible, mais il y a une différence. Alors Abraham dit à Lot, c'est pas bon. Vous vous rappelez de ça. Mais rendez-vous à la fin des temps. La fin des temps, c'est quand Ruth revient. Au bout de la route, il y a Ruth. Et Abraham a protégé Lot jusqu'au bout. Et voilà, j'ai un peu répondu à texte. Nahor, lui, c'est celui qui reste à Orcasie. Et alors, une providence exceptionnelle, et parce que Nahor est resté à Orcasie, il y a des filles pour devenir les épouses des enfants d'Abraham. Isaac et ensuite Jacob. Vous vous rappelez de ça? C'est chez Nahor qu'on a rencontré Rivka, c'est chez Nahor qu'on a rencontré Léa et Rachel. Donc Nahor, c'est la même qui. D'ailleurs, il y a, je vais chercher le verset qui est dans la Gemara, un enseignement très précis. Ne méprise jamais l'araméen. Parce que c'était la langue de la famille d'Abraham. Je vous dis, c'est une minute, je vous dis ça. Alors, c'est donc à la fin de la lettre. Alors, c'est sur le verset. C'est le verset 47 du chapitre 31 de la Genèse. Et lorsque Laban a nommé le tumulus, là, comment on dit en français, Gal, le dolmen que Jacob et Laban ont construit comme signe de leur alliance, Laban et Jacob, lorsque Jacob quitte le pays de Laban, il a nommé Yega Saaduta, et Yaakov Karalo Galaed. Et qu'en hébreu, Jacob l'a nommé Galaed. Galaed, et c'est finalement le terme qu'on trouve dans Galaad, du merveilleux, du Moyen-Âge gnostique. Galaad, Galaed. Vous connaissez le Saint Graal, ce genre-là. Bon, eh bien, alors voilà ce que la Gemara dit, c'est dans Yerushalmi Sota, chapitre 7, Halakha 7. Je ne l'ai pas trop annoncé ça. Voilà, Amar Bishmoel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, un enseignement de Rabbi Yonatan, Allié Lachon Sourci Kalbe Enecha, que le langage syrien ne soit pas méprisable à tes yeux. Shehare Batora ou Amour, puisqu'il est cité dans la Torah. Umay, de quoi ça se dit, Maïninou, Yega Sadita. De la manière dont Laban araméen nomme Galaed, eh bien, et dans la Torah, a le prestige, l'honneur, le caron d'être dans la Torah. Alors, la Gemara dit, ne méprise pas ce langage. C'est cette langue familiale de la famille d'Abraham, alors qu'elle était araméenne, et bien c'est très proche de l'hébreu. C'est dans la Torah. C'est une langue de famille. Est-ce que c'est clair, celui-là? Faites vous-même la transposition nécessaire. Nous verrons plus tard, si on attend ce séminaire, que là-bas, c'est la dernière étape. C'est l'araméen qui ne veut pas redevenir hébreu. Et c'est le pire ennemi de Jacob. Mais Laban lui cache la raccord et la colle. C'est le plus grand danger dans cette histoire-là. L'effort d'engendrement d'Abraham l'hébreu est entouré de problèmes, de rivalités, d'interpellations, d'ennemis. Le pire, va nous dire la Mishnah de Agadat Pessah, c'est Laban. Vous avez compris les versets jusqu'à l'hébreu, hein? Elle a dit, pire que Pharaon. Pharaon a voulu s'approprier l'identité hébraïque par les filles et tuer les garçons. Tuer le produit fini et s'adjoindre la maîtresse. Mais Laban lui cache la raccord et la colle, alors que Laban a voulu arracher tout. Or, tout, c'est l'indice de bénédiction de Jacob. C'est les colles. Abraham Bakol, Yitzhak Mikol et Akol Kol. Mais Laban, Bikesh, Akol et Akol. Alors, qui c'est ce Laban? Laban, c'est l'araméen, fils de Betuel. Laban, fils de Betuel, fils de Nahor, fils de Terah, frère d'Abraham, et qui est rappelé dans le texte, Laban à Arami, Laban à Arami. C'est presque un personnage des trois mousquetaires, il y avait Athos, Porthos et Arami. et la Gada dira, mais la balle de Kesh, là encore et encore. On arrivera là, si on arrive à ce texte, je voulais le signaler à l'avance. Alors, nous avons une relation très ambivalente avec la balle, c'est la famille, et puis voilà, dans ce c'est la famille, c'est le pire ennemi, c'est inouï. Alors nous avons vécu cette histoire, les gens qui ont travaillé ici. C'est clair ce que vous avez dit? Oui.
Est-ce que
les
calaraméens, est-ce qu'on peut le transcrire de la même façon comme le langage d'un alpéra, de l'époque, pour toutes les langues, ou bien spécifiquement que la langue?
Non. Écoutez, l'araméen ne fait pas partie des 70 langues. Il y a les 70 langues, il y a l'hébreu, et entre l'hébreu et les 70 langues, il y a trois autres langues qui ont un statut privilégié. C'est l'arabe, le latin et le grec, qui sont les langues de la famille d'Abraham. Et l'araméen, ça fait quatre. Hein. Voilà. L'araméen, c'est la langue.
Il n'y a pas justement, il n'y a pas le grec. Ici, c'est ça sur le cifré, sur Jésus-Abraha.
D'accord. Et
j'avais effectivement remarqué que depuis des siècles et des années, il y a bien effectivement que c'est basé d'ailleurs sur Hachem et Bissina, etc., n'est-ce pas? Pour chaque. Pour Osso, c'est en train d'arriver.
Hachem, Bissina, il bat.
C'est ça.
Et Atan, Marie-Marie-Marie. Alors, oui, fini.
L'hébreu, l'arabe, le latin, l'arabe.
Oui, alors lis le Torah Tumima sur ce verset. Il ajoute le grec. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est l'arabe, c'est clair, c'est la langue d'Ismaël. L'araméen, c'est clair, c'est la langue de Laban. L'hébreu, c'est clair, c'est la langue d'Israël. Le latin, c'est la langue d'Ésaü. Et le grec aussi. Et c'est le Torah Tumima. Bon, même si on enlève le grec dans le cifré, ça va dans le même sens. D'autant plus qu'il y a une Gemara qui dit que la beauté de Yafet, c'est Yavan. Et tous les décisionnaires ont dit, attention, pas la philosophie grecque, la langue grecque. Tu te rappelles? On a permis de traduire les livres qu'en langue grecque. Donc ça va un peu dans la foule. Il y a pas de doute qu'il y a dans la langue grecque un génie particulier à propos duquel, bon, Platon a prophétisé, Veishkon Berolushem. Mais si on substitue la pensée grecque à la langue grecque, tout est changé. Donc c'est un sujet pour lui-même.
Narod. Au séminaire, il y a deux ans.
Narod.
Est-ce que la langue grecque ne véhicule pas un peu aussi la pensée?
Eh bien voilà, la langue grecque véhicule la poésie. Alors la question est-ce que la poésie grecque ne véhicule pas la pensée grecque? Je vous dis, j'ai étudié un peu cela, surtout chez Nietzsche. Et peut-être d'autres, mais surtout chez Nietzsche. C'est qu'il y a toute une richesse de dimensions de la culture grecque. En fin de compte, c'est une dimension qui a triomphé. La dimension tragique. Mais il y avait une pluralité dans la poésie grecque, disons. Il y avait aussi l'hypothèse hébraïque dans la poésie grecque. Elle a été clairement refoulée, scotomisée. Et c'est la dimension tragique qui s'est imposée. Alors rappelez-moi les termes en Nietzsche, c'est la tension entre Dionysos et Apollo. Okay. Apollinien, disons Dionysia. Alors Dionysiaque s'est défiguré parce que caricaturé, puis a disparu. Quand il ressurgit, il est dévastateur. Mais c'est finalement la dimension apollinienne qui s'est imposée dans la pensée grecque. Il est possible qu'à l'origine, les rabbins aient eu affaire avec une langue grecque qui véhiculait pas que ce que nous appelons nous la pensée grecque. C'est possible.
Okay. La question est quand même difficile. Si on se rappelle en particulier l'enseignement du mariage. Je rappelle, je me souviens bien, cet enseignement du livre à Philippe. Si on te dit, Yesh, Torah Bagoui, la Torah des nations de papa, tu dis Yesh Rokma, pas le, dans lequel le maral dans ce Namisa, parce qu'il montre ce que les Grecs demandent aux Hébreux, le titre ou le fait à la Chorche et la Rélec de l'Oté Israël, inscrivé sur la forme de la République de part. Israël, c'est qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait une chorma, une sagesse, qui soit supérieure à la Bémara. Il dit clairement que la chorma yabani, c'est la sagesse universelle, humaine, la plus élevée. Et d'ailleurs, il montre la différence par les Roms. Les Grecs ne demandent pas aux Juifs de disparaître, de ne pas détruire. Qu'ils renoncent à leur Torah simplement pour accepter, et j'ouvre des guillemets, parce que nous savons montrer que les guillemets ne sont pas entendus, j'ouvre des guillemets, pour renoncer à au particularisme juif et accepter, entre guillemets, l'universel grec.
C'est ce que les juifs d'Alexandrie ont accepté.
Quand tu parles de poésie et que tu refuses la chokhma, je suis un peu...
Je ne refuse pas la chokhma. Je dis que ce qu'on appelle la pensée grecque aujourd'hui dans le sens négatif, c'était une des dimensions de ce que véhiculait la poésie grecque. Mais la citation que tu fais va dans le sens que je dis, il y a une chokhma grecque. Elle est véhiculée par la langue grecque. Mais ce que nous avons aujourd'hui dans le sens négatif, la pensée grecque tragique déterministe, qui est le contraire de la chokhma de la Torah, c'était une des dimensions de cette vie. Et probablement à un certain stade de la découverte de l'âme grecque, disons, par les rabbins, il y avait encore cette pluralité. C'est plus tardif que ça s'est cristallisé dans une opposition à l'homme. C'est où l'homme.
Déjà, la Gemara me permet de dire à ces grecs que au moment où il
fait ni jour ni
nuit. Alors, évidemment,
au crépuscule.
J'ai compris cela au moment de la galade Pessa. Parce qu'on parle d'un moment où il n'est pas ni jour ni nuit.
Okay. Mais tu vois, tu as dit la philosophie grecque. La philosophie grecque, c'est tardif, la philosophie grecque. Il y a, avant la philosophie grecque, la sagesse grecque. Pardon ?
Elle est mythologique.
Elle est mythologique, d'accord. Je ne vais pas vous dire le mot, parce que ça nous ouvre encore un tout autre sujet. Mais cachérisée, elle est belle. Cachérisée. Il faut la passer à l'eau de sel. Les deux. Le mot français dérivé du grec alphabeta, mais il y aurait pu avoir une autre lecture que l'alphabet vient de l'alphabet. Mais non, mais c'est grec, parce que le français est dans l'ordre grec. Il est à l'envers de l'hébreu.
Non, il a inclus dans l'alphabet les voyelles.
Pardon ?
Il inclut comme le chef dans l'alphabet les voyelles.
L'hébreu ?
Non, le français.
Le français, oui.
Oui, c'est ça la différence.
Je voudrais dire d'ailleurs que dans l'ancien hébreu, il y avait les lettres voyelles qui sont devenues consonnes pour nous. Le vav est une voyelle, le hé aussi, le halop aussi. C'est retrouvé en yiddish. Instinctivement, le yiddish a retrouvé ça. Dans l'écriture. Nos points voyelles, c'est des béquilles, hein, nos points voyelles. Les voyelles de l'hébreu, c'est les lettres du Évi. Bien. Alors, ça suffit comme introduction au texte, vous voulez plus d'éclairage. Et on arrive donc à ta question sur la thérapie. Pourquoi tu as posé la question sur la thérapie?
C'est-à-dire que vous avez suggéré la question, il me semblait, autour du niveau des trois questions, les trois niveaux, on appelle les trois enfants qui.
C'était une autre
question. Enfant,
ah oui, c'était une autre question. Il y a posé plusieurs questions.
Oui, mais enfin, les trois enfants de Nahor mènent à Abraham, les trois niveaux de la sortie de l'Erpecha.
Ah, on avance. Mène
à l'Israël, à l'Israël.
C'est-à-dire, ajoute un peu et tu es avec. C'est beaucoup plus intéressant. C'est qu'on a appris que l'Echlecha d'Abraham avait pour objectif Moria, le sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire que le l'Echlecha de la sortie de Kasdim désignait en réalité la Aretz Asher Areka et l'Eretz Amoria, un endroit précis dans le pays de Canaan où de toute façon ils allaient. Mais comme si le texte, à travers ce midrash, nous dit, alors maintenant c'est Pshat, okay, le texte nous dit, tu vas avec Canaan, parce que tu sais où tu vas. En réalité, tu vas au Har HaMoria pour les sacrifices. C'était ta question.
Abraham,
on le voit par le texte qui parle de ça. Abraham entend, je vais laisser l'Echa et la Aretz Asher Areka. Alors il va déjà au pays de Canaan. Donc il doit s'attendre à ce que, arrivé au pays de Canaan, il y aura aussi à trouver l'objectif du voyage. Et l'objectif du voyage depuis le Lech Lecha, c'est Eretz Amoria. Mais c'est une question énorme. C'est-à-dire, bon, tu vas en Eretz Canaan, mais sache que ce qui t'attend, c'est de te dire ça. Mais il se passe aux Israéliens, ils vont avoir peur. Mais vous rappelez, les sacrifices n'ont pas eu lieu.
Ton fils avec lui-même, Isaac.
Oui. Alors là, le Midrash avait enseigné différentes étapes pour donner un salaire à chaque étape pour ne pas. Il y avait hier un monsieur là, pour ne pas l'effrayer, tout ce que a dit le Midrash revient à son endroit. Okay. Mais quel est notre sujet maintenant qui apparaît? C'est qu'au fond, l'objectif ultime, selon Dieu, de la sortie d'Ur-Kasdim, c'est Eretz Amoria, c'est Agrestra. Alors que selon la famille d'Abraham, au début du voyage, c'est rentrer en Palestine et en faire Eretz Israël, pas plus. Vous avez compris le problème? C'est énorme ce qui se dévoile là. Vous voyez comment, sans le Midrash, on ne s'en rend pas compte. C'est la lecture que les rabbins avaient depuis toujours de ce texte. Et tout ça est vécu comme ça par le peuple juif, mais il y a des niveaux de dévoilement de lucidité, si j'ai. C'est une nida qu'on appelle en langage juif, en hébreu juif traditionnel, Messirut Nefesh. C'est l'épreuve de Messirut Nefesh. Et dans tous les cas, cette sortie de la famille d'Abraham d'Ur-Kasdim pour aller en Eretz-Canaan de la première partie du texte, c'est Messirut Nefesh. Ce qu'ils disent à Kimdash, c'est tu sais pas ce que c'est Messirut Nefesh. Arrive à Moria. Vous avez compris? Alors là, on est déjà bien avancé grâce à cette introduction, parce que il se dévoile là. Alors en français, les mots sont trop carrés, trop durs. La nécessité de Agadat Yitzhak, dès qu'on a entendu que c'est une épreuve pour Abraham, pas pour Isaac. Léa et Otim, Nissa et Abraham. Ziet, c'est ce mirage que nous avons eu. Alors, je ne vous relis pas le texte, je vous l'ai fait distribuer. On s'y appuiera. Je pense qu'on continuera cette étude encore de même parce que il me semble que l'heure avance. Oui, comme d'habitude.
Une question qui me vient tout de suite. Tout à l'heure, vous avez dit, enfin, je ne sais pas si on peut détailler ou non, que Bakol Mikol Kol, ça correspond à Abraham, Utsrak, Yaakov.
Oui, c'est connu.
Mais quand on voit les trois termes, on voit que le Kol de Yaakov, il n'y a rien devant. Il y a Bakol, Mikol, Kol. Stop. Il n'y a rien pour Yaakov.
Il y a tout pour Yaakov.
Il y a tout, mais d'accord, mais je veux dire, si vous voulez, Abraham, il est marqué Bakol.
Oui.
Pour Utsrak, c'est Mikol. Et Yaakov, Kol, sans le, aucun préfixe devant, c'est ça que je veux dire.
Voilà. Alors je vais répondre, si vous avez entendu la question et vous l'avez compris. Il y a un principe de la sagesse juive qui est Kol Amosi Gorer. Celui qui ajoute, retranche. Tant que c'est en plus, c'est que c'est en moins. C'est quand on arrive à tout un point que c'est vraiment tout. L'expiration est faite. Alors il y a eu des étapes. Abraham est béni Bakol, dans une partie du tout. Bakol, une partie du tout. Israël est béni Mikol, une partie d'Israël est béni. Jacob, c'est tout. Dans la discussion, dans un dialogue, c'est un dialogue historique entre Ésaü et Jacob. Quand Ésaü dit à Jacob, c'est quand Jacob tente la réconciliation par une offrande. Vous savez, il y a trois stratégies de Jacob devant Ésaü. Les cadeaux, on appelle ça aujourd'hui des concessions territoriales, et ou bah, jusqu'à la concession perpétuelle. Et les cadeaux, Doron, dit le Midrash, se préparer à la guerre, le Chama, ou la prière. Les trois stratégies sont dans la Torah. Okay. Et alors, le drame, c'est quand ce n'est pas les mêmes hommes qui sont les hommes de chacune des stratégies, c'est quand c'est les trois là. Et alors, Jacob, revenant de chez Laban, essaye la stratégie des cadeaux. Il lui envoie un troupeau, dont finalement la valeur numérique s'appelle Tseir, c'est le sacrifice des troupeaux d'ailleurs. Peut-être qu'il est déjà passé par la guerre de Kippour. Et alors, quand Ésaü voit cette offrande, il dit: garde mon frère, j'ai beaucoup, Yeshli Rav. La blague, c'est que j'ai un ramen, Yeshli Rav. On ne sait pas où il est, mais il y en a. Et alors, Jacob qui répond: prends, moi j'ai tout. C'est ça qui est bon. Donc on n'a pas tout, on n'a rien. Ça, j'ai vu. Et c'est vrai. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier toutes les exigences boulimiques, matérialistes, absolues. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Que l'exigence de la valeur, c'est l'absolu. Tant qu'on se contente du relatif, c'est passé. Et ce que la Torah a proposé aux créatures en disant la vie, c'est la vie absolue. Sinon, c'est pas sérieux. Et Torah n'a pas le courage de prendre les choses au sérieux, c'est pas sérieux. Bon, je ne sais pas comment dire ça autrement. Mais est-ce qu'on peut imaginer le créateur dont parle la Torah qui lui proposerait un être relatif? C'est pas sûr. Il s'agit vraiment d'une proposition de la vie absolue. Et on passe des examens. Ça s'appelle examen de passage. Un examen de passage important, c'est Pessah. Et le passeur, c'est Abraham. Vous voyez comment ça se raconte. Il est évident que l'âme, lui, va pour exigence la vie absolue. Et non pas seulement un espèce de relatif pieux, ou pas pieux d'ailleurs, de je ne sais pas quoi, c'est du verbalisme, c'est liturgie qui disent je suis la religion de la vie, mais qui va mourir. Vous comprenez? C'est à une autre échelle que la Torah parle de la vie proposée à la créature. Et la coupe, maintenant. Moïse, ils étaient trois à avoir reçu déjà dans cette vie, dans ce monde, mais Moïse était Michel et tout. Et vous ne demandez pas les deux autres, qui c'est? Non, alors vous ne demandez pas, c'est sûr. Eh bien, c'est pas celui à qui vous ne pensez pas. C'est Hanoch et Yehonami. Peut-être la teste en cœur. Bon. Et alors, quelle est l'histoire? Hanoch de la lignée de Shem, hein, pas celui de la lignée de Caïn. Il me trompe, il me trompe. Et alors?
Il y a une exigence entre Sarah et Agar.
Parlez plus fort.
Sarah était stérile.
On avait dit un autre mot hier, c'était
infertile.
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 Et Agar avait trouvé une profusion d'enfants.
Oui. En judéo-arabe d'Algérie, on dit le bec. Je ne traduis pas. Elle continue.
Peut-être
que c'était
pas infertile. Elle était plutôt exigeante quant à l'absolu.
Oui, et son exigence la rendait infertile au relatif. Voilà. Il n'y a pas de contradiction.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas procréer. Il dit que voilà, Abraham ne pouvait pas procréer tant qu'il était incirconcis.
Ah, c'est encore autre chose pour Abraham, mais il pouvait procréer puisque incirconcis l'a eu.
Oui, mais parce que Agar se satisfaisait de l'incirconcision.
Abraham aussi, sinon on n'aurait pas accepté la proposition de Sarah. Imaginez la scène. Sarah qui dit, ben non, moi je peux pas. Prends la belle égyptienne. Et Abraham dit, d'accord. Qui dit Abraham?
Donc leur relation à l'autre n'était pas circonscrite.
Oui, très bien. Mais vous savez là, il y a une bifurcation de l'histoire qui a passé par l'Hébreu, mais qui aurait pu passer par l'Égypte, et ça se trouve avec Moïse. Moïse fait passer l'histoire par l'Hébreu et pas par l'Égypte. Là, l'Égypte aurait pu être la matrice du fils d'Abraham. Et c'est l'islam. Vous savez, bien que les Égyptiens, ce n'est pas vraiment Ishmaël, mais c'est quand même. L'islam a quand même pour capitale l'Égypte. Bien que la capitale, ce ne soit pas l'Égypte, vraiment. C'est l'Arabie Saoudite. D'accord. Et avec toutes les annexes. Mais malgré tout, qu'on retrouve la relation à l'Égypte de manière aussi systématique et juste à nous, c'est pas un hasard. C'est évident. Alors, dans ce midrash, on voit très clairement, ça ne peut pas réussir avec la matrice araméenne, essayons, parce qu'elle est devenue trop spécifique, essayons la matrice égyptienne. En ce temps-là, la grande civilisation, c'est celle du pharaon. Et le midrash, Pint, comme on dit en yiddish, nous explique qui c'était Agar, la fille du pharaon. La princesse. On se revoit au temps du roi Salomon et de Stéphane. Vous voyez à quel niveau le Midrash s'exprime. Et alors là, il y a un problème. Si vous voulez, je le reprends avec le Zohar demain. Vous me direz que je vous apporte le texte. Que Abraham a fait exister de manière irréversible une catastrophe d'approximation. Et ça pèse sur notre histoire jusqu'à la fin des temps, va dire le Zohar. Tu connais peut-être. Alors, j'espère vous montrer la vertu d'Abraham. C'est le commencement de la foi juive, de la foi hébraïque. Mais c'est un commencement d'une difficulté énorme pour arriver à l'authenticité. C'est le même homme. Et quand finalement, à la dixième épreuve, il s'avère qu'il est bien Abraham, alors ça passe à Isaac. Et quand à la fin de la dixième épreuve d'Isaac, il s'avère qu'il est bien Isaac, ça passe à Jacob. Et quand à la fin de la dixième épreuve de Jacob, il s'avère qu'il est bien Israël, il reçoit le nom d'Israël. Et c'est pas simple tout ça. Un juif pour devenir hébreu. Bien, nous sommes arrivés.
C'est toujours dix générations par dix générations en fait.
Dix épreuves par dix épreuves, pas dix générations. La Mishnah dit très clairement, Abraham a été éprouvé de dix épreuves. Isaac a été éprouvé de dix épreuves et Jacob a été éprouvé de dix épreuves. Alors je reprends ce texte demain à la fin de l'introduction. La fin de l'introduction, c'est que, à la fin de son cycle d'épreuves, Abraham est bien le tzaddik de la Midat HaChesed dirigé vers l'unité des valeurs, et c'est cette preuve-là qu'il aura à faire, qu'il est dirigé vers l'unité des valeurs, un chesed capable d'être aussi tzaddik de Din. Imaginez un chassid capable d'être mitnagé. Il y en avait un seul, c'était le don de Vilna, enfin dans mon érudition. C'était un chassid de mitnagé. Et je ne sais pas si je vais vous citer ça. Les Rachet de Bot, Hassid Mindaget, c'est Ham. En hébreu moderne, on dit un bon juif, on dit Yehudi Ham, un juif chaud. Hassid Mindaget, c'est le Ham. Top.
Il y a un Mindaget qui est capable de Hassid Mindaget.
C'est ça que il faudrait leur dire croissez et multipliez. Mindaget, j'arrive pas à le traduire en français spontanément, c'est tout ce qu'on espère. De mettre la ligne capable d'être racidine, c'est la réussite.
D'accord, c'est bon, tous ces apports vont vivre.
Oui, c'est
donc
ça.
Il y a un ordre dans
les... Oui, mais après, à la fin, ils sont rachamim. Alors c'est un ordre. Tu as compris? Le petit train est arrivé. Alors pourquoi tu n'aimes pas la racidine, toi aussi? Bien.
Tu sais, quand on se dit, j'ai envie de dire, la pire chose qui puisse arriver à un juif, d'avoir un cœur de mitnagé et un cerveau de racine.
Ah, ça c'est la pire, mais l'inverse ça va. Oui, l'inverse ça va. Et chez les racines, il y a les deux tendances. Vous avez compris ce que je dis? Chez les racines, il y a deux tendances. Vous avez des racines qui disent que l'unité, je dis en hébreu, tsarich le achel liba le moucha, et tsarich le achel moucha le liba. Il faut unifier le cœur et le cerveau, et d'autres le cerveau et le cœur. Il y a les deux tendances. Je crois que Lubavitch, enfin le Tania, a cherché cela, cette unité du cœur et du cerveau avec dominant de cerveau. Le Tania, je dis bien. Il y a les chassidines, pour tout le cerveau, je ne sais pas savoir ce que c'est. J'ai un grand cœur, ça me suffit. Et surtout, ne leur dites pas qu'ils auraient un petit cerveau. ou un cerveau lent, je ne sais pas. Je veux dire, c'est un monde, la chassidine. Il y a eu ces deux tendances. Je crois que le privilège de ce paradigme, c'est qu'ils ont des dollars. Un peu. Je sais pas si j'ai dit ça sous cette forme. Quand j'étais jeune, j'ai découvert le monde ashkenaz. Je disais spontanément, les sparadigmes croient comme les chassidines et pratiquent comme les mitnagdim. Avec l'expérience, j'ai un peu changé. Je crois que c'est l'inverse. Les mitnagdim pratiquent comme les sparadigmes et les chassidines croient comme les sparadigmes. C'est une question d'expérience. Chacun peut avoir l'expérience. Et à l'origine, les Rishonim étaient des sparadigmes. Et les Acharonim, chez les Acharonim, il y a eu cette séparation entre Hassidim et Mitnagdim. Mais les Rishonim étaient des sparadigmes. Et les maîtres, et des Mitnagdim, et des sparadigmes, et des Hassidim, pardon, ont été les Rishonim. En particulier, le Maharal a dans cette lignée une place à part. C'est un des rares maîtres dont Mitnagdim et Hassidim se réclament sans réticence, les uns et les autres. C'est très grand. Nahmanid, chez les sparadigmes, c'est la même chose. Le rare maître, dont les rationalistes, entre guillemets, et les mystiques, entre guillemets, se réclament de la même autorité. Nahmanid, Maharal, doit la lignée, et la suite. Et la suite, c'est nous, qui devons la tracer. Voilà. Alors on dira le Moussaf de Shabbat, Dimit Nagdim, avec le Keter de la tracer. Alors, à demain. Comme ça, ça va, du coup. Alors, à demain, la suite.